Les colloques du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir le plaisir d'écouter Jean-Michel Mouton. Jean-Michel Mouton est connu de tous, enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas le présenter du tout. Il est agrégé d'histoire et après avoir vécu pendant de longues années au Proche-Orient dans des centres de recherche et après avoir exercé dans des universités françaises aussi, il a été nommé à l'École pratique des hautes études comme directeur d'études en 2005, je crois, et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2024. C'est son domaine de spécialité en tant qu'historien et en tant qu'archéologue, c'est l'époque ayoubide et ce qui suppose bien évidemment comme terrain l'Égypte et la Syrie principalement. Donc sa bibliographie est tout à fait impressionnante. Je pense que ça serait encombré l'exposé ici que d'en parler, mais c'est tout à fait dans ce sujet-là, dans le sujet d'aujourd'hui qui nous occupe, que ces compétences vont nous entraîner.
Merci Pierre. Donc je parlais de Casanova et de Casanova, oui, de Casanova effectivement, et de Caracouche, voilà. Donc on va reprendre ces deux personnages. Paul Casanova, comme cela a été indiqué tout à l'heure, consacra en 1892 et 1893 deux études à Bahaddin Karakouch, personnage d'origine servile, devenu émir du célèbre sultan Saladin. Il est connu avant tout pour sa construction de la citadelle du Caire et de la muraille enserrant le Caire des Fatimides et l'ancienne Foustat, construction qui date des années 1170 et 1180, en pleine période des croisades. Ces deux études qu'il compléta par quelques ajouts dans son travail sur les derniers Fatimides et dans sa monographie sur la citadelle du Caire sont un modèle de longévité puisqu'elles constituent jusqu'à nos jours une référence souvent citée, référence scientifique sur le personnage de Karakouch. Quelques exemples suffisent à illustrer ce propos. Donc, c'est la seule étude citée, en dehors des sources évidemment, la seule étude scientifique citée dans la notice Karakouch de la deuxième édition de l'Encyclopédie de l'Islam, ainsi que la principale référence sur le personnage dans une publication encore plus récente de Donald Richards sur un document inédit de la Géniza du Caire où figurait le nom de Karakouch. Le fait que ces études soient toujours citées s'explique peut-être, bon, c'est peut-être pas l'aspect le plus positif, par l'intérêt tout relatif suscité par la dynastie des Ayyoubides depuis bientôt un siècle et demi. Si on fait la comparaison, par exemple, avec les études Mamelouk, donc la bibliographie est bien pauvre, mais surtout, évidemment, par la qualité du travail de Paul Casanova, la qualité d'abord de la documentation. Il mobilise à peu près toutes les sources disponibles à son époque. J'ai compté, en effet, l'utilisation de 9 sources arabes à travers les éditions de Boulac, la publication à peu près contemporaine de ces articles, des premiers volumes des historiens orientaux du recueil des historiens des croisades. Il faut ajouter le Kitab al-Suluk d'Al-Makrizi, qu'il consulte en manuscrit à la Bibliothèque nationale de France, et qu'il n'avait pas pu utiliser dans sa publication de 1892, mais qu'il utilise dans celle de 1893. Tout comme la seule inscription avec le nom de Karakouch, encore conservée in situ à la citadelle du Caire, qu'il publie en 1894. Nombre de ces sources sont écrites par des contemporains de Karakouch, comme le Fath al-Kusi, la conquête de Jérusalem, d'Imad ad-Din al-Isfahani, le secrétaire de Saladin. Il la consulte dans l'édition que donne en 1887 l'orientaliste suédois Carlo de Landberg, auquel Casanova demande, ça peut peut-être intéresser certains spécialistes, une traduction française des passages en prose rimée, d'un accès difficile pour Casanova, qui pourtant est très bon arabisant, mais ce texte de Imad ad-Din al-Isfahani est particulièrement compliqué, et Lino de Landberg avait promis édition et traduction, il s'est arrêté à l'édition du texte arabe, n'a jamais fait la traduction, qui sera faite par Henri Massé dans les années 70, et ce sera d'ailleurs un texte posthume. La qualité ensuite est celle du scientifique, qui dans une langue très claire, très concise, dresse un portrait de Caracouche qui est d'abord, comme cela a été indiqué tout à l'heure, une défense du personnage décrié par ses ennemis et rivaux. C'est peut-être évidemment la partie la plus datée de cet article. À partir de là, il serait sans doute prétentieux de vouloir réécrire la biographie de Caracouche, même si depuis plus d'un siècle, un certain nombre de sources nouvelles, de sources arabes nouvelles, ont été découvertes, ont été publiées, comme l'Itihaz al-Hunafa de Makrizi, qui éclaire un peu mieux le rôle joué par Caracouche sous les derniers Fatimides, le résumé du Bark al-Shami de Imad ad-Din al-Isfahani pour le début du règne de Saladin, ou encore des documents portant le nom de Caracouche dans la Guénisa du Caire pour les dernières années de sa vie. Aucune, à mon sens, ne vient révolutionner notre connaissance du personnage. Tout au plus peut-on corriger à la marge certaines données, en compléter d'autres grâce à l'apport des sources nouvelles, et enfin traiter d'aspects méconnus de la vie du personnage qui reflètent plus, à mon sens, les centres d'intérêt nouveaux, des approches historiographiques nouvelles que véritablement la découverte de nouvelles sources. Cette présentation se concentrera donc sur quelques aspects de la vie de Caracouche où il est possible de livrer une perception un peu renouvelée du personnage sur ses origines, sur le bâtisseur et sur l'homme de confiance de Saladin. Un Turc qui ne connaissait rien nos livres. Voilà comment Imad ad-Din al-Isfahani désigne Caracouche au moment où il vend et disperse la bibliothèque du grand palais des Fatimides après la mort du calife Al-Hadid en 171. Le secrétaire Saladin reprend ici un topos, celui du faible niveau d'éducation des Turcs. L'attribution de cette ethnie Caracouche vient sans doute du fait que le nom, comme on l'a indiqué tout à l'heure en discussion, le nom qu'il porte est un nom turc qui signifie « l'oiseau noir », bien que Caracouche soit un esclave blanc, comme cela est répété dans les sources. Sans doute aussi parce que la plupart des militaires des armées de Saladin, issus de la classe servile, sont d'origine turque. Paul Casanova ne retient pourtant pas cette origine. Il se fonde sur un témoignage d'un autre contemporain de Caracouche, celui du médecin Abdel-Latif el-Bardadi, un médecin égyptien, vivant en Égypte, plutôt d'origine bagdadienne, qui le qualifie de Roumi, c'est-à-dire de Byzantin, information que l'on trouve également dans le texte syriaque de Bar Ibraus. Quel témoignage privilégié ? La question est difficile, car les deux auteurs ont connu Caracouche, l'un dans l'entourage de Saladin, mais plutôt en Syrie, le second en Égypte, où Caracouche passa les 30 dernières années de sa vie. Il ne faut sans doute pas rejeter d'emblée l'identification de Casanova. Tout d'abord, le nom turc de Caracouche n'implique pas une origine turque du mamelouk qui le porte. L'autre Caracouche contemporain de Bahadine, un certain Sharaf ad-Din, qui est connu pour avoir mené des expéditions en Libye, est un esclave d'origine, un mamelouk d'origine arménienne. Et un autre Caracouche de l'époque mamelouk était un esclave habashi d'origine éthiopienne. En second lieu, notre personnage est un eunuque. Et à cette époque, nombre d'eunuques importés dans le Dar al-Islam venaient notamment de l'Empire byzantin, issus notamment des razzias effectuées dans les monastères orthodoxes. Donc, il faut peut-être privilégier cette origine roumi. Il est en revanche difficile de suivre Paul Casanova quand il qualifie Caracouche d'arménien, sans indiquer sa source. Il y a sans doute une confusion avec l'autre Caracouche dont je viens de vous parler, Sharaf ad-Din, qui était d'origine arménienne et qui, en revanche, n'était pas un eunuque. On ignore tout de sa formation et du début de sa carrière. Il apparaît pour la première fois dans les sources au tout début de l'année 1169 en Égypte, au moment de l'agonie de son maître Shirkou, alors vizir des Fatimides. Il a déjà, semble-t-il, un certain âge, peut-être plus de 40 ans, avec un rang élevé dans l'armée ayoubide, peut-être déjà le statut d'émir, donc de général des armées. Casanova, suivi par la plupart des historiens, fait du personnage un esclave, sans doute un mamelouk, de l'oncle de Saladin, Saladin Shirkou, qui fit la conquête de l'Égypte pour le prince syrien Nouredine en 169. Il fut nommé vizir du dernier calife Fatimide. voire, il hésite un peu, un mamelouk de Saladin lui-même. Quelques sources émettent également l'hypothèse qu'il pourrait être un eunuque du palais des Fatimides, un eunuque des Fatimides vivant au palais. Toutefois, une source purement damascène, le Mousayal d'Abou Shama, publié au milieu du XXe siècle, donc bien après Casanova, apporte quelques données nouvelles dans la brève notice biographique qu'il donne du personnage. Si la date de naissance, même approximative, de Karakouche reste un mystère, on apprend qu'il n'aurait pas été Mamelouk de Shirkou, de l'oncle de Saladin, mais d'un certain Ibn al-Tirtiki, personnage que je n'ai pas pu identifier et qui l'aurait affranchi. C'est seulement à la mort de ce maître qu'il serait allé, en homme libre, se mettre au service de Shirkou, avec lequel il avait sympathisé, ou plutôt son maître avait sympathisé. C'est donc tout un passé. Le nom du personnage n'a pas grande importance, mais c'est tout un passé en Irak ou en Syrie qui se dessine ainsi pour notre personnage. Et une formation qui ne correspondrait pas forcément à celle d'un mamelouk turc. En intégrant la garde de Shirkou, la garde personnelle de l'oncle de Saladin, il aurait gravi les échelons de la carrière militaire avant de participer en 1169 à la conquête de l'Égypte et de servir jusqu'à sa mort tous les souverains ayyoubides d'Égypte. Ces quelques éléments de la biographie d'un membre de l'entourage de Saladin fournissent un certain nombre de données de portée plus générale, me semble-t-il. Tout d'abord, sous les Ayyoubides, il semble bien que les Mamelouks, les esclaves militaires, ne portaient pas, comme à d'autres époques, leur nom de naissance, mais que celui-ci leur était donné, soit par leur maître, soit par le milieu des soldats turcs qui le formaient. Un autre élément intéressant est l'usage, au moins jusqu'à l'époque des croisades, d'un vocabulaire varié pour désigner les eunuques. À côté de Rassi, on trouve le terme de Radim, puis celui à l'époque mamelouk de Tawashi qui est utilisé bien après la mort de Karakouche. Enfin, les Nisbas sont avant tout des noms de relations en rapport avec le prince que l'on sert et fluctuent donc au gré d'une vie. Karakouche est ainsi Karakouche al-Assadi lorsqu'il sert Shirkou, al-Maliki al-Nassiri lorsqu'il sert Saladin, et enfin à la fin de sa vie, al-Maliki al-Afdali dans un document de la Geniza, lorsqu'il sert al-Afdal, le fils aîné de Saladin, qui pourtant a pris sa place à la tête de l'Égypte. Karakouche doit sa notoriété en tant que personnage à l'édification de la citadelle du Caire et de la muraille de 19 km qui devait aller en décrivant un arc de cercle. Vous voyez, vous voyez ici la muraille, la citadelle et la muraille qui allait donc du Nil au Nil en serrant le Caire et Foustat et s'appuyant sur la citadelle. Les travaux lui furent confiés par Saladin en 176 et l'occupèrent sans doute une partie de sa vie. En s'appuyant sur l'héritage d'Al-Makrizi, sur le témoignage d'Abdel Latif el-Bardadi, sur l'inscription que je vous ai montrée, qui marque l'achèvement d'une première tranche de travaux, Paul Casanova souligne que pour plusieurs de ses constructions, Karakouche a utilisé des pierres tirées de la destruction des pyramides, notamment des petites pyramides de Memphis, pour construire et la muraille et les ponts de Gizeh, et que la main-d'œuvre utilisée fut pour une bonne part une main-d'œuvre constituée de captifs francs. Il n'évoque cependant que brièvement les deux autres chantiers égyptiens que Karakouche a menés à titre privé, à la fois comme bâtisseur et comme évergette. Je cite Casanova, « Un grand nombre de fondations pieuses ou utiles et un quartier du Caire, Harad Baladin, qui porta son nom. » Ces constructions révèlent deux aspects du personnage. Tout d'abord sa piété, signalée par ailleurs par des aumônes abondantes et la constitution de nombreux waqfs, biens de main morte, qui lui permettent de rénover entièrement la grande mosquée de Raïdan, le long du Khalij, également de construire un ribat, un couvent pour les soufis, un caravansérail aux portes du Caire. Mais avant tout, ce qui transparaît ici, ce sont ses talents d'aménageur urbain, je dirais peut-être d'urbaniste, car si un faubourg du Caire porte son nom, ce n'est pas seulement, c'est ce petit rectangle en rose en haut de la carte, ce n'est pas seulement parce qu'il s'y installe et aménage sa maison, sa dar, mais il y a établi également un Maïdan, un hippodrome pour l'entraînement des militaires mamelouks, y aménage un système d'adduction d'eau et installe précisément dans ce quartier les établissements religieux évoqués précédemment. Ce nouveau faubourg du Caire, situé à l'extérieur de Bab al-Futur, la porte des victoires, marque aussi dans une certaine mesure la diffusion par la nature de ces édifices d'une architecture et d'un type d'édifice dont le modèle est importé d'Orient et qui avait déjà touché Damas près d'un siècle auparavant. On retrouve d'ailleurs cette orientalisation, entre guillemets, dans la sépulture de Karakouche, voilà, qui est située dans le cimetière du Karafa. Alors, le quartier qu'il fonde est ici. Là, il est enterré dans le cimetière du Karafa, au sud-est du Caire. Il construit une tourba à coupole, édifice funéraire privilégié des élites militaires turques et kurdes. Karakouche fut inhumé le 7 avril 1201. Et il avait fait construire, à proximité de sa coupole, un puits, un bassin qu'il avait fait édifier, et tout cela en lisière du fossé de la muraille du Caire qu'il avait fait creuser. Karakouche va donc jusqu'à planifier la parcelle du cimetière où il repose. Un autre volet de son œuvre de bâtisseur, largement négligé, se situe en Syrie, dans la ville d'Acre. Saladin le chargea en 188 de refortifier la cité en prévision d'une nouvelle croisade, la troisième croisade. Il avait pour mission de reconstruire la muraille délabrée, de rehausser les tours de l'enceinte. Si le temps dont il disposa avant le début du siège conduit par les souverains francs, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, fut bref, sans doute un peu plus d'une année, le résultat semble important, puisque l'ensemble de la ville était bien défendu à l'arrivée des croisés, grâce à une enceinte restaurée, agrandie, grâce à la construction d'une nouvelle porte, qui, comme par hasard, s'appelle Bab Karakouche, construite au nord de la ville, qui résista, rappelons-le, deux années au siège des Francs, mené par voie de terre et par voie de mer, et aux multiples assauts et tirs des catapultes de ceux-ci, avant de capituler. Karakouche fut fait prisonnier et paya sa rançon de plusieurs dizaines de milliers de dinars avant de retrouver la liberté un peu plus d'un an après sa capture. La Syrie du XIIe siècle, contrairement à l'Égypte, est un espace qui se couvre de citadelles et de forteresses, tant du côté franc que du côté musulman. Karakouche appartient à cette catégorie des émirs bâtisseurs. Maître d'œuvre des grands travaux de Saladin, il dut se former dans le domaine des constructions militaires en Syrie durant la période obscure de sa vie au sein de l'armée turque. Néanmoins, c'est bien en Égypte qu'il devient un véritable entrepreneur, qu'il transforme la physionomie du Caire. Lorsque Saladin le chargea de fortifier Acre, on peut percevoir la puissance du bâtisseur et l'expérience du contremaître. Il fit venir, nous dit le secrétaire de Saladin Imad ad-Din al-Isfahani, avec lui depuis l'Égypte, donc depuis l'Égypte jusqu'au littoral syrien, matériaux de construction, outillages, instruments, hommes et bestiaux, ouvriers, maçons, ingénieurs, entrepreneurs, tailleurs de pierres et architectes, prisonniers, artisans, sculpteurs et carriers, ainsi que les ressources en quantité pour les dépenses, or pur et argent, monnayé. Un dernier aspect du personnage, c'est celui de l'homme de confiance des princes Ayyoubides, chargé des basses besognes, comme l'élimination des esclaves noirs, la séquestration des membres de la famille Fatimide, comme des plus nobles tâches, telles l'exercice du pouvoir par délégation lors des absences du prince, et souvent au détriment des frères et des fils moins fiables. C'est cette image que Paul Casanova s'est efforcé de trouver dans les sources en se faisant traduire le long portrait du personnage que dresse Saladin devant son conseil lorsqu'il le choisit en 188 pour fortifier Acre. Karakouche, le probe, le fin, le respecté, l'étincelant, l'homme au coup d'œil supérieur, à la course impétueuse, le sûr. Le titre d'émir, dont il est qualifié dans toutes les sources, voire d'émir Kabir, de grand général, dans un document de la Geniza, souligne d'abord son rang, le rang militaire. Même s'il faut constater que le personnage ne brille pas au combat, du moins dans la seconde partie de sa vie qui nous est connue. On ne le voit pas participer aux expéditions militaires de Saladin, en Syrie et en Irak, ni contre les Anquis, ni contre les Francs. S'il doit durant deux années, de 1189 à 1191, soutenir le siège d'Acre contre les Francs, comme gouverneur de la ville, le fait que d'autres émirs lui soient adjoints, comme l'émir Loulou pour affronter le siège par voie de mer ou Al-Mashlou pour le siège par voie de terre, montre bien, me semble-t-il, que ses talents de stratège ne constituent pas sa qualité première. En fait, là où ses talents s'expriment et sont reconnus, c'est d'abord comme administrateur du Caire et du territoire égyptien. Ses compétences comme ingénieur militaire ont fait sa réputation. Mais au même moment que Saladin lui confie la construction de la citadelle, il le charge également de dresser un nouveau cadastre des terres d'Égypte. C'est le Raouq el-Salahi qui permet de réévaluer la valeur des irtas et concessions foncières attribuées aux émirs, dont les revenus servent à entretenir leurs troupes et d'estimer leur valeur au ribra en fonction d'une nouvelle unité fiscale. Qui est connu des historiens sous le nom de dinar jaychi, mais comme par hasard, là encore, qui fut appelé dans un premier temps le dinar Karakouchi. Dans les dernières années de sa carrière, en 196, Karakouche occupa la fonction d'inspecteur ou chad d'un important bureau de l'administration, le diwan al-mal, avec pour mission de recouvrer les sommes restées impayées, en plus de la charge d'inspecteur chargée du recouvrement de la zakat qu'il occupait déjà. C'est sans doute à travers ce type de fonction qu'il pouvait avoir recours à la force que lui conférait son statut d'émir, et c'est sans doute dans ce contexte qu'il se fit au sein des bureaux d'administration des ennemis comme Ibn Mamati. En dressant la biographie de Karakouche, l'objectif de Paul Casanova était de voir comment on était passé de l'émir de Saladin au personnage légendaire du Kitab al-Feshouch, d'établir la chronologie de ce passage et de voir si le personnage burlesque du Fachouche empruntait des traits au vrai Karakouche, comme cela a été rappelé par Frédéric Bodden tout à l'heure. Casanova concède qu'il y avait deux facettes dans le personnage, dont l'une avait pu prêter au ridicule, tout en voyant comme principale cause du dénigrement la rivalité entre le guerrier Karakouche et l'administrateur Ibn Mamati. S'il fallait aujourd'hui expliquer la vie de Karakouche, on pourrait sans doute appliquer une autre grille de lecture. Par exemple, tout en lui le rattache à son statut d'eunuque. On retrouve en effet nombre de fonctions dévolues au XIIe et XIIIe siècle, voire plus tard, aux eunuques en terre d'islam, et particulièrement donc à l'époque ayyoubide. L'homme de confiance du sultan qui porte Saladin au pouvoir, le gardien, non pas du harem, mais du palais où il sépare les hommes et les femmes de la famille fatimide pour que la dynastie s'éteigne. Le militaire, auquel on peut abandonner le pouvoir ou confier une ville frontière en toute sécurité. L'éducateur des jeunes princes, il fut Atabek, du petit-fils de Saladin, dont il devait assurer l'intérim. Et enfin, le personnage raillé par ses contemporains du fait qu'il était émasculé, qu'il était imberbe, qu'il ne pouvait fonder une famille et qui investissait donc en conséquence sa fortune dans les aumônes et dans les fondations, dans les biens de maman, dans les waqf. Plusieurs eunuques ont des profils parallèles à cette époque, comme l'a montré David Ayalon, on peut citer Khaymaz au service des Ankites de Mossoul ou Koumouchtakin sous Noureddin. Pourtant, Karakouche semble avoir une stature bien supérieure, du fait peut-être de sa formation, peut-être aussi du fait de sa longévité exceptionnelle. Il dut approcher les 80 ans, peut-être, enfin, grâce à son pire ennemi, Ibn Mamati, qui en le caricaturant, a aussi assis sa notoriété et sa popularité. Dans tous les cas, quelles que soient les découvertes de nouvelles sources et de nouvelles grilles de lecture de sa vie au gré des modes historiographiques, son histoire est indéfectiblement lié à Paul Casanova, qui le premier en fit un personnage digne d'étude, qui le premier en fit un personnage historique. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.